C'est entendu. Les bons comptes font les bons amis. La dette est un reproche, une blessure qui vient entacher les plus belles amitiés. Mais au-delà d'une interprétation sonnante et trébuchante de cette expression, comment comprendre ce que signifie être en compte avec un ami? Que faut-il sacrifier à l'amitié? Et que peut-on en espérer? La pureté d'une relation amicale ne souffre-t-elle pas de ce marchandage un peu mesquin autour de ce que l'on se doit? Et ce, même lorsqu'il s'agit de sentiments nobles. Finalement, que pouvons-nous attendre de l'autre? Autrui, ou le grand autre comme disent les cuistres, c'est celui qui me fait être par son regard et son jugement. Il me donne consistance et profondeur. J'ai beau savoir que je suis fidèle et courageux, il faut bien que je l'éprouve et que je le prouve. Or, c'est précisément lorsqu'autrui me reconnaît ses qualités qu'elles existent véritablement. Et au-delà des reproches et des critiques que l'on peut se faire, c'est bien là ce que l'on cherche chez un ami, la confirmation de ce que l'on pense être ou de ce que l'on voudrait être. Postulat redoutable qui fait de l'autre le critérium et la condition de possibilité de mon existence. Pascal, dans ses Pensées, livre sur ce point une réflexion éclairante, mais non moins redoutable, elle aussi. Écoutons-le. Qu'est-ce que le moi? Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il? Non, car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Mais alors qui suis-je? Demandons-nous à la suite de Pascal. Rien, si ce n'est ce que les autres en auront décidé, c'est-à-dire un amalgame fluctuant de qualités empruntées. Voilà une chose terrifiante. C'est pourquoi nous attachons tant d'importance à fixer notre être dans un regard qui compte, celui de l'ami précisément, l'élu qui fera de moi ce que je suis. Il y va ici d'une perte de soi que rattrape la confiance en l'autre. Mais comment d'une confiance réciproque ne pas tomber dans une forme d'aliénation? Peut-on raisonnablement se résoudre à cette forme d'abandon à l'autre? Pour répondre à ces questions, il faut peut-être se tourner vers le modèle de l'amitié développé chez les anciens, de Platon à Aristote, en passant par les stoïciens ou encore Épicure. Pour cet idéal antique, qui prône la sagesse et le bonheur comme terme de l'existence, l'amitié est une vertu cardinale qui se partage, mais d'une manière assez particulière. Qu'est-ce à dire? Paradoxalement, le véritable ami ne peut être qu'un homme seul. L'ami véritable est celui qui n'a besoin de personne pour se sentir exister. Car en effet, s'il m'a choisi moi, ce n'est pas pour ce que je lui apporte, il se suffit à lui-même, mais c'est pour ce que je suis en tant que tel. Se gagne ici l'assurance réciproque de la pureté de nos regards et de nos jugements. L'ami serait donc celui à qui je n'ai pas de compte à rendre, et inversement. Nous ne nous devons rien, si ce n'est le fait d'être, voilà tout. Il est là pour moi, et je suis là pour lui, rien d'autre. Deux solitudes autonomes et libres, qui se respectent et qui s'aiment dans l'écho d'un silence entendu et partagé. Et l'on voit par là que l'ami idéal serait celui ou celle qui n'a pas besoin d'amis. Soyons modestes et restons philosophes.